Les Alouettes de Montréal ont remporté une belle victoire malgré la pluie hier. C'est une victoire de 28-14 face aux Blue Bombers de Winnipeg. On en parle avec Bruno Eppel qui est avec nous. Salut Bruno!
Salut, j'étais content d'être en dessous d'une tente, je peux te le dire hier.
Mais quand même, 12 000 personnes qui étaient là à Percival Molson.
Eh oui, très 12 000 braves, ben un peu plus que 12 000 en fait, mais oui, c'est le fun de voir quand même une ambiance dans un stade où on annonçait 90% de pluie. Tu sais, c'est évident qu'il y a du monde des fois qui décide de pas y aller, mais là, le monde se sont pointés quand même. Une belle foule qui était présente en plus au niveau là, du bruit qu'elle a fait. Non, c'était cool de voir ça. Puis les Alouettes ben, sur le terrain ont fait ce qu'ils avaient à faire pour garder les partisans dans le match. On a quand même joué un match très solide dans l'ensemble. Là. Je comprends que les Bombers, Jérémy, n'avaient pas amené leur équipe A, mais reste que sans défense, on avait pratiquement tout notre monde. Puis je parle du côté des Bombers, puis du côté des Alouettes en attaque, ça a bien été. Là.
Ben, écoute, sais-tu quoi, j'ai réfléchi à ça dans cette histoire-là, de ne pas mettre Kolaros puis de mettre McGuire comme corps arrière. Et je me suis dit, tu sais, t'approches des matchs éliminatoires, veux-tu vraiment dire c'est pas grave si on perd un match? Tu sais, veux pas, on faisait des tests et j'imagine qu'on était déçus en quelque part du côté des Blue Bombers de Winnipeg. Là.
Ah, c'est évident. C'était un test, ça, c'est sûr. On voulait, oui, donner un repos à Kolaros. On sait que les Blue Bombers vont avoir un bail. Donc, eux, s'ils donnaient un repos à Kolaros, c'était maintenant, pas la semaine prochaine. À mon avis, Kolaros va jouer la semaine prochaine un petit peu, peut-être une demi, juste pour être sûr qu'il ne soit pas un mois inactif. Mais c'était une chance pour McGuire de montrer de quel bois il se chauffait. Aïe, 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 il n'y a pas de bois là. C'est du petit bois. Hein? C'est de la brindille, moi te le dis. C'est pas évident. Je comprends que la défense des Alouettes, c'est une des bonnes de la Ligue canadienne. Bravo, chapeau. On a fait du côté de la défense, tant qu'à moi, ce qu'on doit faire lorsqu'un corps arrière de cette trempe-là t'affronte, c'est-à-dire le dominer. T'sais, c'est mis à part une séquence là où on s'est comme un petit peu laissé aller au quatrième quart, je pense, là, trois jeux, puis on a donné un touché. Écoute, la défense a été impeccable dans ce match-là encore une fois. Puis on voit que si on gagne du côté des Alouettes dans les éliminatoires, ça va être en grande, grande partie à cause de deux choses. La défense première et l'attaque au sol des Alouettes.
Ah, clairement, on va y revenir à l'attaque au sol et à Trevor Harris également, corps arrière chez les Alouettes. Juste à parler du premier jeu du match, honnêtement, j'ai eu un petit mouvement de panique. Là. Quand sur le botté d'envoi, t'échappes le ballon, tu positionnes dans ton territoire à quelques verges de la ligne des buts, les Blue Bombers de Winnipeg, je me dis « Ah non, pas un match comme ça, un match où ça sera tout croche pour les Alouettes. » Puis ça n'a pas été le cas, heureusement, mais ça a mal parti.
Ah, que ça a mal parti, puis c'est malheureusement encore les unités spéciales. Les unités non spéciales, on s'en parle pratiquement à chaque semaine, toi et moi, là. Et là, plus on approche de la saison importante, les éliminatoires, plus cet aspect-là du jeu là, va peut-être venir faire la différence dans un match. Ça serait le temps, là, que ce soit pas les unités spéciales, si on veut, qui dégonflent la balloune des Alouettes, comme on l'a fait là en début de match. Cette fois-ci, c'était Pickett. La semaine passée, c'était 4 pénalités pour non-respect de l'unité puis un bloc dans le dos, tu sais, tu comprends? Mais c'est souvent cette unité-là qui dégonfle la balloune des Alouettes. Puis c'est dommage parce que en attaque puis en défense, là, tout va bien. Ces unités spéciales peuvent juste faire leur bout. Puis je parle pas des batteurs, là. David Côté, excellent. Notre batteur de dégagement, pas de problème. C'est les joueurs autour, des fois, là, qui laissent à désirer, particulièrement les unités de retour.
OK, je veux que tu me parles de Trevor Harris. Mon Dieu, on a l'impression que lui et Geno Lewis, il y a une bromance. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Là.
On va se le souhaiter, parce que, tu sais, Geno Lewis et Trevor Harris le disaient, qui est meilleur que Eugene Lewis dans la Ligue canadienne présentement comme receveur? Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça prend quelqu'un qui a une chimie avec ce gars-là, tu sais. Et on l'a vu en début de saison. C'était pas évident avec Vernon Adams puis Eugene Lewis en début de saison. Là, Trevor Harris, après seulement 3 semaines, ben, on sent qu'il y a quelque chose, là. Il y a eu 2 belles passes de toucher, entre autres, là, où tu voyais qu'on comprenait des deux côtés, Eugene Lewis puis Trevor Harris, ce qui se passait au niveau de la couverture, où le ballon devait aller, c'est-à-dire très bas et près du coin de la zone de but, puis Eugene Lewis était déjà en se tournant, placé, prêt à attraper le ballon à cet endroit-là. C'était de toute beauté de voir cette chimie-là, puis on va souhaiter que ça se développe parce que la progression jusqu'à présent de Trevor Harris depuis 3 semaines, elle est très bonne. Ça ne s'est pas traduit au niveau des verges, il y en a juste 144, mais il a complété 72% de ses passes, puis on a contrôlé le ballon avec lui comme corps pendant presque 40 minutes dans le match. Ça, c'est rassurant. C'était du Trevor Harris à son meilleur, là. Efficace en zone courte, prenait ce qu'on lui donnait. Il ne nous a pas fait peur une fois dans aucune de ses passes qu'il a lancées. C'est le fun de voir ça. Puis si ça continue, ben écoute, il va commencer à peut-être brouiller les cartes, même pour l'an prochain, s'il continue à jouer comme ça. On verra bien. Là.
Dis-moi, Bruno, la ligne à l'attaque, c'était un grand questionnement avant le début du match parce qu'il y a eu des blessés, on a changé des positions. Comment tu l'évalues, cette ligne à l'attaque, dans ce match face aux Blue Bombers?
Ben, elle a fait ce qu'elle pouvait avec, encore une fois, quatre joueurs qui ne jouaient pas vraiment à leur position, si on veut. Là. T'sais, Christian Matt, qui est supposément à garde, jouait centre. London Rice, qui habituellement joue bloqueur, jouait garde. Gallander, un recrue, faisait son premier départ comme bloqueur à droite. Puis Foucault, qui n'est pas notre garde à gauche habituel, ben, il était là. Vivement le retour en santé de Sean Jamieson. Moi, c'est ce que je vois encore, parce que c'était pas évident. Là. Particulièrement en début de match, on a accordé beaucoup de pression. Il y a deux sacs qui sont venus de la position de bloqueur à droite. Ça, c'était Callender, la recrue. Tu sais, si London Rice est là, peut-être qu'on n'accorde pas ces sacs-là. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir Sean Jamieson revenir. Ça va permettre à Christian Matt de retrouver sa position de garde, puis par la suite, London Rice de revenir comme bloqueur. En général, je te dirais, on a fait ce qu'on pouvait avec les unités, avec les effectifs qu'on a présentement.
Bon, là, les Alouettes, c'est un dernier match face à Ottawa. On espère une victoire et on souhaite une défaite des Tiger Cats face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Ça va faire un match local. Et sais-tu quoi? Pour l'organisation, pour les Alouettes, je souhaite un match éliminatoire local parce que c'est des revenus supplémentaires. Veux pas, là. Faut
ben
le souhaiter.
Oui. C'est sûr qu'on se le souhaite. Malheureusement pour les Alouettes, ce qui est arrivé hier, c'est pas bon parce que les Rough Riders ont battu les Elks. Donc eux, ça les assure de leur rang éliminatoire. Là. Ils peuvent plus bouger. Fait que là, j'ai bien l'impression qu'un peu comme les Blue Bombers, il y a des joueurs des Rough Riders de Saskatchewan qui feront pas le voyage jusqu'à Hamilton. Puis ça va inclure Cody Fajardo, leur carrière, parce que eux vont devoir jouer lors de la première semaine. C'est certain qu'ils vont vouloir donner des repas à des gars. Ça augmente les chances des Tiger Cats de gagner. Mais, sais-tu quoi? La beauté pour les Alouettes, c'est qu'ils jouent avant les Tiger Cats. Fait que, eux, là, ils se préparent comme un match éliminatoire. On veut battre le rouge et noir, forcer les Tiger Cats à gagner, peu importe contre qui va se présenter sur le terrain.
Bon, ben laissons de côté les Alouettes. Parlons de la NFL maintenant. Il y a des duels fort intéressants. En fait, tout le monde se questionne. Aaron Rodgers. Bon, écoute, c'est fini cette histoire de COVID et tout ça. Les Packers qui affrontent les Seahawks de Seattle. Est-ce que tu vois Rodgers prendre son poste déjà comme carrière?
Ben, moi, je pense qu'on n'a pas le choix du côté des Packers. Si, tu sais, il a clairé le protocole hier soir, en soirée. Il est asymptomatique. Même s'il n'a pas pratiqué, Aaron Rodgers te donne des meilleures chances de gagner et que Jordan Love, ce qu'on a vu la semaine passée, c'était vraiment pas concluant. Fait que moi, je m'attends à voir Aaron Rodgers, le mal-aimé, effectuer un retour, évidemment, au Lambeau Field, face aux Seahawks et Russell Wilson, le bien-aimé. Lui, Russell Wilson, c'est le gars qui fait tout bien dans la vie. Là. Et c'est tellement fatigant, il est tellement parfait qu'il énerve le monde. Là. Puis Aaron Rodgers, lui, c'est le contraire de ce temps-là, il énerve tout le monde parce qu'il fait des affaires qu'il laisse à désirer. Ceci étant dit, j'aime les chances quand même d'Aaron Rodgers dans ce match-là. Au Lambeau Field, chez eux, face à une équipe des Seahawks, qui, oui, va revoir Russell Wilson, mais qui a une défense qui est plutôt poreuse. On est capable d'accorder beaucoup de verges. Aaron Rodgers, dans des positions de même là où ce qui il fait un petit peu suer tout le monde là. Habituellement là, c'est son grand plaisir de sortir toute une prestation pour calmer le jeu puis faire parler d'autres choses que ses mauvaises décisions. Fait que je m'attends quand même à une très très belle prestation d'Aaron Rodgers. Puis moi, si j'avais un petit 2 à mettre, je mettrais ça sur une victoire au Lambeau Field des Packers.
Parlons de l'autre duel maintenant, les Chiefs face aux Raiders. Ok, c'est le fun l'attaque des Chiefs. Mais la défensive des Raiders est pas pire aussi. Ça se peut que Patrick Mahomes trouve chaussure à son pied.
Ben, t'as tellement raison, parce que les Raiders, c'est la meilleure défense pour mettre de la pression à quatre, sans blitzer. Patrick Mahomes, lui, ce qu'il veut dans la vie, là, c'est se faire blitzer. Il est très bon contre ça. Mais lorsqu'il y a une pression à quatre, puis qu'on est capable de jouer avec deux maraudeurs profondément, c'est devenu compliqué pour Patrick Mahomes dans les dernières semaines. Puis les Raiders, eux, défensivement, sont bâtis pour jouer ce genre de défense-là. Fait que là, quand si les Chiefs, excuse-moi, et Patrick Mahomes sont pour se remettre sur pied en attaque, là, ben, il va falloir qu'on déjoue ce genre de système défensif-là pour la première fois depuis plusieurs semaines. Je le souhaite aux Chiefs, évidemment, parce que du côté offensif des Raiders, on a beaucoup, beaucoup de potentiel en attaque. Puis la défense des Chiefs, même si elle joue mieux, est quand même poreuse. Donc, moi, je pense qu'il va se marquer des points, que les Chiefs ont besoin d'être au rendez-vous au niveau offensif dans ce match-là. Là.
Bon, ben écoute, Bruno, ça résume notre conversation football pour ce week-end. On te laisse aller parce qu'évidemment, vous avez une grosse journée du côté d'RDS pour la présentation de la NFL. Mais surtout, je te dis un gros merci puis je te souhaite un excellent dimanche, Bruno.
Ben moi aussi. Bon foot, tout le monde. Salut, Jérémy. Bye-bye.